Début d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire du sport au lendemain de Roland-Garros, à la veille de l'Euro de football et à quelques semaines des JO de Rio. Ce lundi, trois temps dans la Fabrique de l'Histoire, le feuilleton, la Fabrique de la Guerre froide pour commencer, puis Jean-Claude Schmitt pour son dernier livre sur les rythmes du Moyen-Âge, paru en Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, nous dira comment il a tenté d'expliquer et comment un historien peut retrouver les rythmes musicaux, les rythmes dansés, les rythmes marchés, les rythmes fêtés de l'époque médiévale. Une entreprise absolument fascinante. En ouverture d'une semaine sur l'histoire du sport, ensuite Jean-Manuel Roubineau nous dressera le portrait de Milon de Crotone, tel qu'il le décrit dans son livre sur l'invention du sport en Grèce antique. C'est paru aux presses universitaires de France, mais tout de suite, le 36e épisode de la Fabrique de la Guerre froide, conçu par Anaïs Quien, autour de la guerre civile grecque.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures.
Octobre 1949. Les combattants communistes grecs déposent les armes mettant fin à la guerre civile déclenchée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le conflit national était devenu un des enjeux de la guerre froide lorsque le président américain Harry Truman en avait fait la pierre angulaire de sa doctrine d'endiguement du communisme en Europe devant le Congrès le 12 mars 1947. Nadège Ragaru.
L'intervention américaine va être absolument décisive pour le cours ultérieur de la guerre civile, puisqu'avec quelques 400 millions de dollars d'assistance économique et militaire, la balance penchera du côté finalement de l'ancrage à l'ouest de la Grèce et de la défaite des communistes au mois d'août 1949. Mais l'archive est intéressante pour une autre raison, elle l'est parce qu'elle nous montre à travers quelles catégories les protagonistes de l'époque, principalement donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais également le gouvernement grec, ont compris ce qui se jouait dans la guerre civile. Et ce qu'ils ont compris, c'est qu'on était en présence d'une part d'une subversion communiste et d'autre part d'un expansionnisme soviétique. Or, en l'occurrence, interpréter à travers ce prisme-là veut dire obscurcir les dynamiques du conflit plus que les éclairer. La guerre civile grecque et son étude ont été très longtemps les otages de la guerre froide, en partie pour des raisons de source. Très tôt, on a disposé de mémoires d'officiers britanniques qui s'étaient engagés, et également de responsables décisionnels du côté grec. On a aussi beaucoup travaillé sur des archives diplomatiques occidentales, puisque celles de la Grèce et de l'Union soviétique n'étaient pas ouvertes. Et on s'est retrouvé avec une minoration de la prise en compte de dynamiques internes, des processus qui étaient sociaux, économiques, politiques et identitaires, et qui donnaient à voir une autre guerre, une guerre avec des formes de violence extraordinairement diversifiées et très profondément localisées, c'est-à-dire ancrées dans des fissures internes à la société grecque.
Alors justement, cette guerre civile qui commence bien avant 1947, qui oppose-t-elle ?
Alors, elle met en jeu un parti communiste grec et des forces gouvernementales, donc qui ont des soutiens extérieurs, soutien britannique puis américain, et qui s'appuient également sur des structures paramilitaires pour partie d'extrême droite. Lorsque le parti communiste s'engage, il va pouvoir bénéficier de soutiens qui sont ceux plutôt régionalement de la Yougoslavie, de la Bulgarie et de l'Albanie, mais pas prioritairement d'une Union soviétique qui est plutôt, elle aussi, prudente.
On a en mémoire qu'en octobre 1949, les communistes grecs baissent les armes, cessent de combattre, justement par faute d'aide de ces communistes. Alors, communistes soviétiques, mais également communistes yougoslaves, puisque entre-temps est intervenue une autre rupture au sein du bloc communiste qui va faire qu'on va perdre de vue les enjeux de cette guerre civile grecque.
Oui, en effet. En fait, le 10 juillet 1949, la Yougoslavie annonce qu'elle ferme sa frontière et donc elle cesse d'apporter le soutien tactique qu'elle avait fourni précédemment à la rébellion en Grèce. De fait, il y avait un soutien qui n'était pas principalement financier, mais qui était la possibilité d'évacuer des blessés, la possibilité de disposer d'espaces d'entraînement, une sorte de hinterland pour la gestion de la conflictualité grecque. Cette décision-là, elle vient, mais après un processus qui a été une source de fragilisation très importante au sein du Parti communiste grec au cours de l'année précédente, puisque le parti lui-même va être divisé entre ceux qui sont favorables à la ligne de Tito et ceux qui sont favorables à la ligne de Staline. Donc on est dans un moment dans lequel le Parti communiste grec est en interne en train de mener des épurations, des indécisions, des violences sur ses propres militants et membres, et dans le même temps a fait un choix militaire qui était celui de tenter d'étendre les territoires de la bataille au-delà des parties du nord de la Grèce où il était très bien implanté, pour aller vers un effort de fragilisation de l'ensemble du territoire. Et cette logique-là, qui l'amène à devoir aussi exercer des violences dans des espaces où il n'avait pas des soutiens très forts, va être un des paramètres de sa fragilisation sur le plan militaire. Et donc, au moment où on va aller vers le dénouement de cette guerre civile, on est dans une situation d'épuisement très profond de l'ensemble de la société et de déchirure d'une ampleur absolument vertigineuse.
Comment se stabilise la situation politique grecque après le dépôt des armes par les communistes en 1949 ?
Alors on se retrouve avec une situation qui est donc très très dure et très très intense et dont il faut comprendre l'immense violence symbolique. 1949 signifie un départ massif de ceux des combattants communistes qui ont réussi à fuir. On a à peu près 50 000 départs, dont on suppose qu'il y aurait eu aux alentours de 30 000 enfants qui auraient été évacués vers des États communistes. Et ce qui est peut-être un des éléments de singularité de la trajectoire grecque, c'est qu'une partie de ces départs est organisée par le Parti communiste, qui négocie avec les partis communistes des pays d'Europe de l'Est, les lieux de relocalisation de ces anciens combattants, qui vont se retrouver parfois éclatés au niveau des cellules familiales, à passer 10, 15 ans en exil, à se retrouver à tenter de mener des vies bricolées, à passer des années à essayer de reconstituer leur famille, et parfois de retrouver des enfants qui avaient pu être laissés en Grèce. Donc on est dans une situation dans laquelle le régime politique se consolide dans une logique d'anticommunisme couplée à un antisoviétisme et parfois à un antislavisme, s'adosse à un soutien américain important et donc va rejoindre notamment l'OTAN, de même que la Turquie, et dans le même temps vit avec ses manques, ses absences de personnes qui ont dû quitter le territoire. Et parfois dans des villages, il reste 5 à 10% de la population qui, elle, soit été en déplacement au moment du conflit, soit revient vers les villages, et vit dans une situation de tabou, de grand silence fait sur les violences de la guerre civile, qui va durer à tout le moins jusqu'à la fin de la dictature des colonels en 1974.
Voilà pour ce 36e épisode de La Fabrique de la Guerre Froide, conçu par Anaïs Quien et réalisé par Françoise Camard. Vous pouvez le télécharger et le garder avec vous pour pouvoir avoir la totalité de cette série du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide dans votre ordinateur ou avec vous. De Machaut, un extrait du Remède de Fortune dans une interprétation de Marc Moyon pour introduire à l'ouvrage dont nous allons parler tout de suite, celui de Jean-Claude Schmitt. Bonjour Jean-Claude Schmitt.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous pour Les rythmes du Moyen-Âge que vous publiez dans la bibliothèque Illustrée des Histoires chez Gallimard, un magnifique livre que vous avez conçu comme peut-être un moine du Moyen-Âge avec autant de soin pour pouvoir justement faire coïncider les images avec le texte, puisque vous travaillez essentiellement, c'est votre spécialité, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous avez été le pionnier, pourrait-on dire, de la lecture des images au Moyen-Âge, aux côtés de Jacques Le Goff et de bien d'autres. Et dans ce livre-là, qui est un maître-livre, vous tentez, une entreprise absolument folle, pourrait-on dire, qui est de retrouver les rythmes de ceux qui vivaient au Moyen-Âge, et cela au Moyen-Âge haut, c'est-à-dire aux alentours du 8e, 9e siècle, au Moyen-Âge tardif, au 14e, 15e siècle, et puis tout le Moyen-Âge, de retrouver les rythmes de leurs paroles, les rythmes de leur musique, les rythmes de leurs pas, ce qui, évidemment, en absence d'enregistrement, nous apparaît absolument une entreprise gigantesque, titanesque. C'est l'ouvrage qui collecte tout ce que vous avez pu faire auparavant, d'une certaine façon, Jean-Claude Schmitt ?
Oui, en effet, c'est le résultat d'une longue réflexion qui a pris beaucoup de temps et qui a eu son rythme propre, y compris celui de l'écriture. Il a fallu beaucoup d'années pour arriver à, d'abord à penser à ce thème qui est immatériel, pourrait-on dire.
Absolument.
Mais qui en même temps incarne le temps, mais incarne aussi l'espace, les couleurs, les mouvements, tous les mouvements. Dans des textes à travers lesquels on peut retrouver quelque chose de la voix des hommes du passé, et aussi dans des images qui font beaucoup plus qu'illustrer, qui sont rythmiques par leur couleur, par leur forme, par les gestes des personnages représentés. Et c'est tout ceci donc qui a été pris en compte pour petit à petit ordonner, rythmer une réflexion historique qui se veut transversale, pourrait-on dire, à l'ensemble d'une civilisation, la civilisation occidentale, entre la fin de l'Antiquité et la Renaissance.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout fait ventre dans votre ouvrage, c'est-à-dire que vous prenez tout ce qui peut rester de cette civilisation médiévale, tout ce qui nous a été transmis. Ça peut être des chapiteaux de Cluny qu'on conserve dans un musée, ça peut être le rythme des façades des cathédrales, ça peut être le rythme d'une église médiévale dans la façon dont les tympans sont agencés par rapport aux linteaux. Et puis, c'est aussi tous ces manuscrits que vous avez parcourus en tous sens, ces manuscrits enluminés qui disent beaucoup plus qu'on veut leur faire dire habituellement. Vous avez dit, ça n'est pas simplement de l'illustration, Jean-Claude Schmitt.
Oui, ce n'est ni de l'illustration, ni de l'histoire de l'art, ce qui est très honorable aussi. Là, il s'agit de comprendre le fonctionnement même des images, en particulier lorsqu'elles sont à la fois sérielles, répétitives, c'est le cas de chapiteaux, par exemple, mais c'est le cas aussi de la tapisserie de Bayeux. Et quand, dans cette régularité, dans cette périodicité, elles font intervenir de la variation. Et il me semble que le rythme, c'est cela, à la fois la régularité d'une répétition ou d'une périodicité et des variations, une sorte de boîterie, au sens où l'on dit que quelque chose cloche. Et j'aime bien cette expression parce que clocher, ici, c'est boiter. Bien sûr, c'est l'origine du mot, mais en même temps, cela évoque les cloches, c'est-à-dire l'instrument sonore qui, par excellence, rythme la vie du Moyen-Âge.
Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous allez donc nous montrer, dans ces rythmes du Moyen-Âge, comment la vie de l'homme et de la femme est une sorte de microcosme, comme on l'imagine d'ailleurs au Moyen-Âge, de ce macrocosme qu'est l'univers créé par Dieu, et que ces rythmes de l'homme et de la femme sont des rythmes qui sont en relation, pensés comme tels en tous les cas, par des gens comme Hildegard de Bingen ou par d'autres personnes, pensés comme tels, et qu'il faut donc les agencer en fonction de ce que l'on sait des astres, de leur circulation, de la façon dont ils tournent donc dans le ciel, et comment soleil et lune sont justement là pour pouvoir nous dire ou dire à ces hommes et ces femmes du Moyen-Âge ce qu'est le rythme de la vie d'une certaine façon et du monde.
Oui, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les choses sont séparées, où l'économie, la politique, le religieux, mais aussi l'homme, la nature sont des instances séparées. Alors que au Moyen-Âge, c'est la totalité cohérente de l'homme et de la nature qui doit être comprise, qui est comprise et qui doit être retrouvée par l'historien. Et ainsi, cette image, en effet, du microcosme humain et du macrocosme de la création est présente tout au long de ce livre et se retrouve à travers, par exemple, la marche ou bien le pouls du cœur, du sang, ou bien la respiration, et cela à travers toutes sortes d'activités, par exemple l'écriture du scribe, qui est elle-même l'expression de ce rythme corporel intime de l'homme qui écrit.
Oui, vous nous montrez comment l'invention de la Caroline, la minuscule Caroline, par exemple, est une volonté de régularité, mais comment justement cette invention de la minuscule Caroline dans les manuscrits médiévaux du 9e ou 10e siècle, eh bien, c'est aussi l'influence que cette écriture aura sur la prononciation des mots. Vous tentez justement d'oraliser ou de rendre tangible la prononciation des phrases de malédiction. Par exemple, vous dites la régularité, le rythme des formules de malédiction permettent de nous dire quelque chose, justement, de ces rythmes qui étaient enserrés, qui enserraient les hommes et les femmes du Moyen-Âge, Jean-Claude Schmitt.
Oui, on retrouve à travers le vocabulaire lui-même, mais aussi à travers le rythme de la phrase, la ponctuation, par exemple.
L'invention de la ponctuation.
L'invention, d'abord, de la ponctuation. Et on retrouve ce rythme même de la parole orale qui est tellement importante au Moyen-Âge. On écrit naturellement, mais seule une minorité peut écrire et lire. Et donc tous les autres parlent. Et leur parole, celle d'un seigneur, celle d'un roi.
D'un prédicateur.
D'un prédicateur aussi peut être transcrite ensuite. Mais cette transcription retient quelque chose de la parole vive, dans la scansion des phrases, dans la coupure des mots, des phrases, etc. Et c'est là, bien sûr, que je suis particulièrement attentif au texte, pas seulement à leur sens général, mais vraiment au rythme de la phrase.
Ce qui est extraordinaire, c'est la même réflexion qu'on pouvait faire à Arlette Farge quand elle a fait ses voix du XVIIIe siècle, c'est qu'il y a chez vous un côté presque médiumnique d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous prenez des textes que chacun d'entre nous profane pourrait lire, comprendrait pour le sens du texte, mais vous y voyez autre chose par votre connaissance très profonde de cet univers médiéval. Vous y comprenez autre chose, justement, cette rythmique, cette scansion. Vous faites des liens que personne d'autre ne pourrait faire parce que votre connaissance est gigantesque, Jean-Claude Schmitt. Et cela, ça nous révèle effectivement quelque chose de ces rythmes vécus, parce que c'est cela. On est au plus près des gens, comment ils parlent, comment ils prononcent une formule, comment ils chantent, comment il danse, comment il marche, Jean-Claude Schmitt.
Oui, j'étais particulièrement intéressé à la question de la marche, parce que c'est un grand sujet qui est peu abordé par les historiens.
On fait il y a comme le traité de la marche qui a été publié par Antoine Debac il y a 2 ans.
Tout à fait, mais c'est une exception, et c'est nouveau. Et je trouve que cette attention au corps en mouvement, à ce rythme du corps qui marche, qui se déplace et qui construit ainsi son chemin, son espace, est quelque chose qui doit retenir l'attention des historiens. Et le livre donc donne une grande importance à cela, à la fois au voyage, dans le fait de marcher pour voyager.
25 à 60 km par jour. Quand on part en pèlerinage, par exemple.
Oui, et 75, c'est déjà beaucoup.
25 à 60, c'est ce que vous dites.
Oui. Mais bien sûr, il y a d'autres usages des pieds. Il y a la danse, en particulier. Et la danse est rythmique par excellence. Et dans la conception ancienne du rythme, la danse, le chant, la musique, sont le cœur même de la notion de rythme.
Oui, et vous nous dites tout de même que l'Église qui gouverne ce monde médiéval est un peu gênée par cette question de la danse, par exemple. C'est-à-dire qu'elle, à la fois, elle peut la comprendre, parfois même la promouvoir. Des œuvres de Fra Angelico montrent des danses au paradis, par exemple, tandis que les damnés de l'enfer sont en train de brûler et d'être poursuivis. Donc elle peut la promouvoir, mais elle peut aussi vouloir la restreindre dans le monde médiéval, parce que qui dit danse, dit excès, dit abus, débordement, et que l'Église ne voudrait pas de ces débordements, Jean-Claude Schmitt.
Et la danse est ambivalente, parce que Elle peut exprimer en effet la joie, et la joie la plus extraordinaire, c'est naturellement celle des élus au paradis. Et donc ils dansent de joie avec les anges. Mais en même temps, la danse réelle, c'est une source de séduction, c'est l'exhibition du corps, c'est le rapprochement des corps, et notamment le rapprochement des sexes. Et c'est en ce sens que l'Église a toujours été très soupçonneuse à l'égard de la danse, surtout quand elle se déroulait dans le cimetière, voire même dans l'Église. Et pourtant, ambivalence là encore, on a des danses de chanoines qui dansent le long du labyrinthe qui est inscrit dans la nef même de leur cathédrale.
Alors, ce qui est peut-être le plus étonnant, c'est de lire... moi, ce qui m'a surpris, c'est de la façon dont vous lisiez les bâtiments médiévaux. Comment, en entrant dans une église ou une cathédrale, vous vous dites, eh bien, cette alternance de colonnes, cette place de vitrail, la façon dont il est placé, ça n'est pas un hasard, cela a été calculé, voulu justement, parce qu'on est dans le temple même de cette connaissance du monde que voudraient avoir tous les hommes et toutes les femmes du Moyen-Âge, et donc de déterminer d'une certaine façon, une certaine rythmique, les colonnettes de cloître servent à penser justement ce rythme de la marche, parce que lorsque l'on marche, eh bien, c'est une alternance d'ombre et de lumière, de regard porté sur le monde, Jean-Claude Schmitt.
Oui, ce rythme du bâtiment ecclésial, parmi d'autres naturellement, est une manière d'honorer Dieu. Et on l'honore à travers toutes sortes d'alternances, mais aussi de successions irrégulières, de variations, des formes, mais aussi des couleurs, des jeux d'ombre et de lumière. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Vous voyez, quand on entre dans un cloître, on a du sombre, du clair, du sombre, du clair. Et au fur et à mesure que l'on marche, que l'on avance, comme l'ont fait les clercs au Moyen-Âge, eh bien, on crée ce rythme, on le fait vivre. Mais c'est le mouvement du corps qui fait advenir ce rythme-là.
Alors, tout le monde n'a pas le même rythme au Moyen-Âge. Il y a le rythme des clercs, il y a ceux qui sont rythmés par la règle de Saint-Benoît, par exemple, ceux qui sont dans leur monastère. Il y a le rythme donné par les cloches, vous l'expliquez bien, Jean-Claude Schmitt. Mais il y a des cloches concurrentes. Dans certaines villes, les cloches de Beffroi, les cloches de la vie civile viennent concurrencer le rythme des églises. Et vous dites, tout compte fait, que dans certaines villes, ça pouvait ressembler parfois à une sorte de tintamarre gigantesque. Vous prenez l'exemple d'une ville qui a été utilisée par d'autres, étudiée par d'autres historiens et historiennes, Tournai. Et vous dites, mais le nombre de clochers, le nombre de beffrois, de cloches de la vie civile, devait donner un espace sonore très particulier, Jean-Claude Schmitt.
Tout à fait. Cette variété est très, très importante et elle est d'ailleurs très consciente. Au Moyen-Âge, les cloches ont des noms. Elles sont baptisées, et donc on les entend et on sait, on les reconnaît dans l'espace sonore, dans le paysage sonore de la ville.
Il y a même des verbes pour chacune de ces cloches, d'une certaine façon, ou des mots pour chacune de ces cloches. Je vous expliquais que certaines sont des petites cloches, donc on reconnaît leur son, et cela veut dire quelque chose, les cloches de matine, par exemple, et d'autres sont des gros bourdons, et là aussi, on reconnaît leur son.
Tout à fait. Il y a les cloches à l'intérieur de l'église qui rythment le rituel liturgique. Et puis, il y en a d'autres, des grosses cloches, qui sont appelées à rythmer la vie publique tout entière. Et c'est celles-ci qui sont en concurrence avec celles du beffroi qui rythment le travail. Et naturellement, le rythme du travail, nous savons à quel point c'est important aujourd'hui pour nous. Et c'est un sujet politique. Et c'était aussi un sujet social et politique au Moyen-Âge.
C'était David Landès qui avait travaillé en partie sur cette question-là.
Absolument. Alors, en insistant sur un changement très important qui est au XIVe siècle, disons, l'apparition des horloges qui rythment le temps, non plus du tout de la même façon, mais ce sont des horloges mécaniques qui découpent le temps en tranches égales et qui ne sont plus liées à la différence entre la lumière, la nuit et le jour, n'est-ce pas, la lumière et l'ombre, au rythme des saisons.
Alors, vous réfléchissez à une quantité de problèmes de la vie médiévale dans votre livre « Les rythmes du Moyen-Âge » chez Gallimard, Jean-Claude Schmitt, et en particulier à ces histoires de calendrier. Vous nous expliquez comment la date flottante de Pâques pose des problèmes de compute, de calcul absolument extraordinaires à tous ces scientifiques du Moyen-Âge. Comment le calendrier, mais calendrier simplement de la vie quotidienne, pourrait-on dire liturgique, d'un côté, le calendrier de la vie quotidienne, celui des moissons, etc., celui lié au temps scolaire, sont des calendriers qui ne coïncident pas forcément. Comment il y a des tensions entre tous ces calendriers? Et vous allez jusqu'à ce travail que vous aviez déjà mené pour une petite maison d'édition, jusqu'à réfléchir à la question de l'invention, de l'individuation du temps par l'intermédiaire de l'anniversaire, quand, d'une certaine façon, on se sépare de la fête des saints, le saint du jour où on est né, le saint de son nom, pour passer au jour où on est né, c'est-à-dire à l'invention de l'anniversaire. Donc, toute cette gestion du temps très complexe, qui est à la fois collective et individuelle, Jean-Claude Schmitt.
Oui, on peut parler de l'anniversaire, en effet, qui est une sorte de révolution, à vrai dire, parce que pendant des siècles et des siècles, on ne savait pas quand on était né, mais on savait quand un individu était mort, parce que...
C'était l'obituaire.
Voilà, on l'inscrivait. S'il était assez riche pour avoir donné de l'argent à l'Église, eh bien, il pouvait être célébré, remémoré tous les ans à la même date de sa mort, c'est-à-dire de sa vraie naissance, la naissance à la vie éternelle. Tandis que le jour de la naissance biologique ne retenait pas l'attention. Et c'est à partir du XIIIe, XIVe siècle que l'on voit ceci, cette attention à la naissance qui se dégage et qui revient d'une certaine façon à une tradition antique qui existait et qui permet de voir là un signe de l'individuation très, très forte et très caractéristique de la fin du Moyen-Âge. L'attention à l'individu, y compris dans la durée de sa vie.
Est-ce qu'il n'y a pas une dimension démiurgique chez vous à vouloir, comme vous le dites, page 204, entendre les voix du passé et restituer le rythme de ses vies, rendre à la parole médiévale toute sa dimension rythmique, sonore et corporelle. C'est-à-dire une sorte de point de vue de Dieu, pourrait-on dire, puisque vous observez le monde médiéval depuis le plus haut possible, avec toute votre connaissance, et vous vous dites, ben voilà, je vois ce qui se passe.
On pourrait m'accuser d'une certaine présomption, puisque le livre est construit selon les six jours de la création.
Alors, c'est
effectivement,
vous qui le dites.
Le point de vue divin ici, j'essaie de l'assumer, mais avec modestie quand même. Mais à vrai dire, le livre est tellement vaste, c'est vrai. L'objet est tellement vaste, ou le problème, plus qu'un objet, des rythmes, que j'aurais pu écrire un livre en 3 parties ou en 40 parties. Et donc, il a fallu que je prenne une décision. Et je me suis dit que le meilleur rythme pour ce livre, c'était le rythme le plus fondamental, peut-être, de cette civilisation, mais qui est encore le nôtre, puisque nous vivons au rythme des semaines et avec un week-end, etc. Et c'est le rythme de la semaine. Et ce rythme de la semaine, il a servi à penser beaucoup d'autres rythmes, en particulier celui des âges de la vie et celui des âges de l'histoire. L'histoire universelle est fondée, selon saint Augustin, selon une succession d'âges qui correspondent aux jours de la semaine de la Genèse.
Eh bien, merci Jean-Claude Schmitt. C'était une mise en appétit, pourrait-on dire, pour ce formidable livre que vous venez de publier chez Gallimard, dans la Bibliothèque illustrée des histoires, Les rythmes du Moyen-Âge. Et je conseille à tous nos auditeurs de s'y plonger. C'est un ouvrage qui nous surprend quasiment à chaque page par son érudition et son intelligence. Merci encore. De l'île de feu d'Olivier Messiaen dans une interprétation de Roger Murinro. Bonjour Anaïs Quin. Et bonjour à vous Jean-Manuel Rubineau.
Bonjour.
Vous êtes là pour l'ouverture de notre semaine consacrée à l'histoire du sport. Nous parlerons d'escrime demain, de football mercredi et nous parlerons des sportifs de l'Europe de l'Est jeudi. Vous nous parlez de Milon de Crotone ou l'invention du sport aux presses universitaires de France. qui est Milan de Crotone et surtout où est Crotone, parce que il a fallu que j'aille regarder sur une carte, qui est d'ailleurs dans le livre, pour pouvoir savoir où était Crotone. C'est un grec d'Italie, Milan de Crotone.
Milan est un grec d'Italie, oui. Crotone est une cité d'Italie du Sud, de la botte italienne. Il y est né, probablement, oui, au milieu du VIe siècle.
Au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et pourquoi est-il, comme vous le dites en sous-titre, l'inventeur du sport ou un des inventeurs du sport? En tout cas, pourquoi correspond-il à ce moment que vous qualifiez d'invention du sport?
C'est-à-dire que Milon, par les légendes qui sont agrégées autour de son nom et de son existence, permet d'observer l'apparition dans les cités d'une figure sociale qui est neuve au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est la figure de l'athlète. Et donc au travers de lui, ce qu'on voit apparaître, c'est l'ensemble des structures qui président à l'existence du sport dans l'Antiquité, c'est-à-dire les gymnases, les stades, c'est-à-dire le calendrier sportif, et puis surtout, l'idéal athlétique dont Milon est, l'une des plus abouties créations.
Anaïs Quin.
Et puis ce qui étonne dans cette figure, qu'on a malgré tout un peu oubliée, c'est quand même la longévité de sa célébrité, c'est-à-dire que Milon vit au VIe siècle avant notre ère, et vous publiez dans votre ouvrage une photo d'un complément alimentaire d'une grande marque de chocolat en poudre, connue encore aujourd'hui, qui date des années 30 et qui s'appelle Milo. On le retrouve dans tout un tas de chansons populaires, d'épigrammes postérieures à sa vie, de statues, de références littéraires du 19e siècle notamment, qui étonnent par leur manière dont elles reprennent de manière très régulière cette figure de Milon comme exemple de la force physique et du premier grand sportif avec une telle célébrité.
Oui, pardon, excusez-moi, je suis pas sûr d'avoir entendu.
Ce qui saisit dans la manière de proposer ce sujet, c'est de voir la persévérance de cette célébrité, des occurrences, oui, des références qu'on fait à Milon.
Oui, pour filer la métaphore du rythme, il y a deux rythmes effectivement à l'existence de Milon. Il y a le rythme de son existence propre, et puis il y a le rythme de sa postérité. Et effectivement, jusqu'à la fin de l'Empire et jusqu'à l'époque byzantine, Milon a été réinvesti. C'est-à-dire qu'il est devenu un symbole. Il a d'abord été un athlète immense, je dirais, au seul titre de son palmarès, et puis ensuite se sont agrégés sur sa figure une série de représentations. Il est devenu, aux yeux des anciens, très très tôt d'ailleurs, dès sa propre époque, aux yeux de ses contemporains, et puis ensuite il est resté le symbole de la virilité, de la force, de l'énergie, de la vitalité, plus généralement, jusqu'à la fin de l'Antiquité. Ensuite c'est revisité à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, mais c'est une autre histoire.
Alors, ce personnage est donc un lutteur, fils d'aristocrate de cette botte italienne, de ce sud de l'Italie, un sud de l'Italie qui est totalement intégré au monde grec, comme vous l'expliquez très bien, c'est-à-dire qui circule, où les voies commerciales et de circulation sont très nombreuses. Et dans ce sud de l'Italie, eh bien, on participe, puisqu'on est grec, à tous les concours gymniques possibles et à tous les concours en particulier olympiques. À ces quatre moments du temps, des grands concours qui sont Olympie, les Jeux Pythiques,
Ismique et Énéméen.
Énéméen, les quatre grands moments, les concours stéphanites, dites-vous, et peut-être à d'autres concours dont on n'a pas la trace, mais il a peut-être participé à tout cela. Et là, on se dit, ce personnage-là a vécu longtemps, sa carrière sportive a été longue, beaucoup plus longue que la plupart des sportifs que nous connaissons aujourd'hui, une quarantaine d'années, c'est ça ?
Alors, il a vécu un peu plus de 40 ans, sa carrière sportive a duré probablement autour de 25 ans ou un petit peu plus.
Voilà. Oui. Et il a gagné 6 ou 7 Jeux Olympiques, on ne sait pas très bien.
Alors probablement 7, en tout cas c'est l'hypothèse à laquelle je me rallie, une première victoire en tant qu'enfant à l'âge de 16 ans, et puis ensuite 6 victoires olympiques à l'âge adulte.
Oui, et donc il est de son vivant une sorte de célébrité incroyable dans la lutte, puisque c'est sa spécialité.
Ah oui, il est, je dirais, sans équivalent et sans concurrent réel de son vivant. La seule défaite qui lui est attribuée, c'est lors de sa dernière participation au concours olympique en 512. Et c'est probablement une défaite dans une discipline qui n'est pas sa discipline principale, la lutte, mais la discipline du pancras à laquelle il s'est essayé.
Anaïs.
On voit bien cette célébrité. Et pourtant, il était compliqué pour vous de retrouver l'homme, finalement, d'en faire véritablement une biographie. D'ailleurs, tout ce livre dont vous êtes l'auteur, Jean-Manuel Robineau, consiste à tourner autour de la statue, finalement, et par des effets d'analogie, de comparaison, d'essayer de le remettre dans son monde et d'essayer de retrouver cette personne, cet homme social, dans ses rapports avec son propre corps, avec la nourriture, avec sa femme, avec son entourage, avec même parfois sa propre célébrité. Et finalement, en tournant autour de cette statue et par ses effets historiographiques, Vous livrez un jeu de matière qui fait qu'effectivement, une fois terminé cet ouvrage, on a un homme devant nous et plus seulement une statue ou une légende, Jean-Manuel Robineau.
Oui, effectivement, c'est l'entreprise biographique appliquée à Milan de Croton, elle est un petit peu désespérée, je crois on peut le dire, c'est-à-dire que la documentation dont on dispose est faite de confettis documentaires qui sont extrêmement étalés dans le temps. Ce qu'on peut faire, c'est saisir, à partir de la légende milonienne, la figure plus générale de l'athlète, c'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas faire, à strictement parler, un portrait complet de Milan de Croton, de sa vie intime, personnelle, on en sait finalement que très peu.
Et alors, vous en savez très peu, et néanmoins, vous arrivez un peu comme dans cette tentative qui avait été faite il y a quelques années, je crois que c'était par Pierre Carlier pour le Homer publié chez Fayard, à dresser, comme le dit Anaïs, l'univers de Milan de Croton. Qu'est-ce qui fait qu'il sort d'une période dans laquelle cette question du sportif ou de l'athlète n'était pas si importante que ça, ou en tout cas on n'en a pas la trace, et qu'il appartient à une nouvelle période de culture du sport, de culture athlétique, dont il va être le premier héros, mais il y en aura d'autres après lui.
Alors je ne sais pas si on peut répondre à la question du pourquoi, soit encore on peut répondre, c'est la question du comment. Comment est-ce que ça surgit? Ce qui est clair, c'est qu'il y a un goût très ancien de la compétition dans le monde grec, qui est très antérieur à la naissance du sport. Ce qui est singulier avec le 6e siècle, c'est que précisément la culture corporelle qui existait jusque-là, au 8e ou 7e siècle avant Jésus-Christ, et qu'on arrive à saisir partiellement, notamment à partir de la poésie, cette culture corporelle se transforme en sport. Et ça, ça survient dans le courant du 6e siècle, très probablement.
Oui, ça participe de ce que vous appelez la culture agonistique des Grecs.
C'est ça, c'est-à-dire la culture agonistique et la culture sportive. Parce que la culture agonistique, en fait, elle est plus ancienne que la culture sportive. L'obsession du concours, de la compétition, le goût pour le modèle compétitif, c'est un goût qui est en fait beaucoup plus ancien que le sport lui-même.
Anaïs. Et vous vous intéressez notamment à la diététique sportive en vous intéressant, en vous penchant sur cette pratique légendaire de la bouffagia qui est que Milon mangerait des bœufs entiers. Et en un seul repas. Et à partir de cela, vous expliquez comment cette diététique sportive est finalement très étudiée, très, très précise, même si elle nous paraît peut-être un petit peu étrange aujourd'hui, puisque le régime de Milon se concentre sur trois aliments, le pain, le vin et la viande, ce qui paraît totalement hérétique aujourd'hui.
Oui, ce sont des aliments qui sont pensés comme très énergétiques, à bon droit d'ailleurs, puisqu'ils sont des aliments qui sont effectivement très caloriques. Alors, il y a deux éléments, je dirais, dans cette question de la diététique de Milon. Je dirais, il y a l'élément qui est historicisable, qui est que effectivement, durant le dernier tiers du 6e siècle avant Jésus-Christ, surgit dans les pratiques athlétiques une nouvelle diététique. Jusque-là, on mangeait essentiellement des fruits, notamment des figues, j'entends les athlètes du début du 6e siècle, ou des produits laitiers, notamment du fromage, et puis Milon, avec d'autres, va adopter cette diététique essentiellement à base de viande. Ça, c'est la partie, je dirais, historique du phénomène. Et puis, il y a la partie plus légendaire ou reconstruite, qui est la légende de la bouffagia, donc de la consommation en un seul repas d'un bœuf entier, qui dit tout à fait autre chose. C'est-à-dire que cette légende de la consommation d'un bœuf, d'abord, elle affilie Milon aux héros, et à Héraclès en particulier, qui a accompli, qui aurait accompli cet exploit à plusieurs reprises. Et puis surtout, cette consommation d'un bœuf entier, c'est une manière de placer les athlètes en général, et Milon en particulier, en situation marginale du point de vue alimentaire. C'est-à-dire que on prête à Milon une conduite alimentaire qui est une conduite presque d'exclusion. Le rite sacrificiel principal en vigueur dans les cités grecques, c'est le sacrifice qu'on appelle le sacrifice sanglant de type alimentaire. C'est précisément le sacrifice d'un animal qui est organisé par un groupe et qui ensuite est partagé, dont la consommation est partagée. Le geste qui consiste à manger un bœuf entier en une fois, et d'abord à le tuer soi-même et à le manger, c'est un geste qui est une forme d'anti-sacrifice, c'est-à-dire une manière de situer les athlètes, parce qu'ils mangent beaucoup de viande, dans une position alimentaire de marginalité et d'anormalité.
Alors, il y a beaucoup de légendes autour de Milon de Crotone. Vous tentez dans votre livre de séparer ce qu'on peut dire historiquement du personnage et de ses légendes. Parmi ces légendes, il y a effectivement l'idée qu'il a accompli des exploits, comme Héraclès, son héros tutélaire, pourrait-on dire. Il y a aussi cette légende d'avoir été battu par un personnage d'origine populaire, dit-on, qui s'appelait Tithormos, qui a soulevé, comme on pourrait le faire aujourd'hui dans des jeux basques, une pierre au milieu d'une rivière, et que lui-même, Milon, pourtant le grand sportif, n'a pas pu faire. En face de lui, un bouvier anatolien, de l'autre côté, un aristocrate donc de Crotone. Et est-ce qu'il y a là, dites-vous, une idée de contre-modèle culturel, c'est-à-dire une force brute d'un côté, de l'autre côté une force travaillée par justement les années d'entraînement, par les concours, etc. Jean-Manuel Roubineau.
Oui, cette anecdote de l'affrontement entre Tithormos et Milon, c'est une anecdote qui s'inscrit en fait dans une série de discours savants anti-sportifs. L'objet principal de l'anecdote, c'est d'opposer la force efficace du travailleur à la force inutile du sportif.
Jusque-là, il est imbattable, invincible. La seule qui peut le battre, c'est sa femme, dit-on.
Absolument. C'est d'ailleurs le même auteur qui raconte une anecdote sur Milon, Élien de Prénès, qui rapporte que, alors que personne ne pouvait desserrer la main de Milon quand il tenait un fruit, son épouse, elle, était la seule, par l'effet de la force de l'amour, à pouvoir obtenir de son époux qu'il ouvre la main.
Et donc, par rapport à Tithormos, cette figure d'un côté de l'honnête travailleur face au sportif qui déploie ses talents, mais sans intérêt d'une certaine façon.
Cette question de l'utilité, on la voit en fait apparaître très très tôt, c'est-à-dire dès les premiers textes qui sont des textes critiques à l'égard de l'idéal athlétique, c'est-à-dire dès le VIe siècle, on voit apparaître cette critique sur le registre de l'utilité et de l'inutilité. Les athlètes sont régulièrement dans les discours savants, c'est-à-dire chez les philosophes, chez les médecins, et puis secondairement dans les textes de poésie, on voit des athlètes qui sont caricaturés précisément au titre de leur inutilité, avec l'idée que les compétences qu'ils acquièrent au gymnase ne sont pas transposables dans la vie réelle, pour dire les choses rapidement, et surtout ne sont pas susceptibles de bénéficier à l'ensemble de la communauté. Ils ne travaillent que pour eux-mêmes.
Anaïs.
C'est ce qu'on voit de manière caricaturale dans la légende de sa mort, puisque Milon de Crotone serait mort dans la forêt de Crotone, seul, coincé dans un arbre qu'il aurait tenté de fendre à main nue, dévoré par des bêtes sauvages. Donc aujourd'hui, cette légende paraît tout à fait ridicule et incarne cette sanction divine de cette tentation humaine de dépasser justement la condition humaine et de tendre vers une perfection par définition inhumaine.
Oui, c'est l'ensemble des récits qui rapportent la mort supposée de Milon dans cette forêt de Crotone. On a de très nombreux récits, pour le coup, la documentation est abondante. Sont des récits qui, effectivement, systématiquement, pointent la responsabilité de Milon dans sa propre mort, avec l'idée que c'est son orgueil qui aurait causé sa disparition. En quoi est-ce que ces récits sont intéressants? Parce qu'ils affilient de nouveau Milon au monde héroïque. C'est-à-dire que fait Milon et que font les athlètes qui sont crédités de ce type de mort, puisqu'il n'est pas le seul à être crédité d'une mort consécutive à un acte de démesure. Que fait Milon? Eh bien, précisément, il s'affilie aux héros, à Achille, à Ulysse, à Héraclès, etc., qui, pour la plupart d'entre eux, sont caractérisés précisément par ces moments de démesure. Cette hubris, quand ils essayent de sortir de la condition qui leur était affectée à la naissance.
Ce qui est très intéressant chez ce personnage, c'est que, comme vous le travaillez sur tous les aspects de sa figure, vous vous intéressez aussi au milieu dans lequel il naît, cette ville de Crotone, qui, est-ce que c'est une analogie parce qu'il y est né et parce qu'il y a grandi, en tout cas, apparaît dans l'espace hellénique du VIe siècle comme étant une ville exceptionnelle. Et là, on pense évidemment à tout ce qu'on dit sur les patries de sportifs aujourd'hui. Il va y avoir bientôt les Jeux Olympiques et on sait très bien les spécialités qu'aurait chacun des pays en question. Et là, on dit que à Crotone, eh bien, il y a tellement de sportifs que c'est une cité saine. Est-ce que c'est une cité saine parce qu'il y a beaucoup de sportifs ou est-ce que c'est parce que c'est une cité saine qu'il y a autant enfin, est-ce que c'est l'inverse?
Alors, en fait, je répondrai ni l'un ni l'autre. Probablement que l'image d'une Crotone cité saine a surgi précisément au moment où Crotone avait passé sa période de pleine gloire athlétique, c'est-à-dire que au VIe siècle et au Ve siècle, Crotone est la cité du monde grec qui accumule le plus grand nombre de vainqueurs olympiques. Et cette formule de la Crotone très saine ou plus sain que Crotone, comme dit le proverbe, est une formule qui a surgi probablement après, quand les Crotoniates ont essayé de capitaliser sur une gloire qui était
déjà
parti, oui.
Anaïs Kia.
C'est l'histoire d'un corps que vous dressez ici, Jean-Manuel Rubino. Et vous faites des références à des sportifs qu'on connaît encore aujourd'hui, qu'on peut googliser très facilement. Et notamment, à un moment donné, vous faites allusion à un ancien champion de lutte sénégalaise, Yekini. Et là, tout à coup, après, à la lecture de ce livre, lorsqu'on tape Yekini dans notre moteur de recherche, on voit surgir un corps. Et pour nous, c'est Milan de Crotone, tout à coup.
Je comprends. Alors, ça n'était pas nécessairement...
Est-ce que ça l'est pour vous ?
Oui, je comprends. C'est pas tout à fait mon objectif. Disons, ce que j'essayais de faire au travers de ce rapprochement, c'était de travailler à se représenter ce que pouvaient être les proportions de Milan et quelles pouvaient être les conséquences de sa diététique.
Mais d'ailleurs, on a l'impression de vous voir le tâter, de voir de quoi est fait cet homme, de quoi étaient faits ses muscles, quelle taille avait-il ?
Oui, alors il était probablement extrêmement grand. En tout cas, c'est ce que nous disent l'ensemble des textes qui se rapportent à sa taille. Probablement extrêmement grand, sans doute au-delà de 2 mètres, probablement très lourd, sans doute 120 ou 130 kilos, mais assez athlétique. Alors, je ne sais pas si on peut le comparer à un Teddy Riner, mais on était sur un physique probablement tout à fait atypique pour l'époque, qui a en partie été la source de son succès.
Merci Jean-Manuel Rubino. Donc, on ne peut que conseiller la lecture de Milan de Crotone ou l'invention du sport, ainsi que de votre précédent livre paru l'année dernière aux mêmes éditions Presse Universitaire de France, Les Cités Grecques, essai d'histoire sociale. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire ancienne à Rennes 2, mais également chargé de cours à l'Université Libre de Bruxelles. Merci beaucoup.
Merci.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Vous l'avez donc compris, nous allons parler de sport toute la semaine et d'abord demain avec vous, Franck Thoraval, pour un documentaire que vous avez réalisé avec Anne Fleury. Bonjour Franck.
Bonjour Emmanuel.
Donc un documentaire que vous réalisez sur l'histoire de l'escrime en partant d'un postulat un peu particulier, réfléchir à pourquoi beaucoup des escrimeurs et escrimeuses françaises qui brillent sur les podiums et en particulier aux Jeux Olympiques sont d'origine antillaise.
Oui, beaucoup, c'est peu dire, puisque effectivement, on a 2% de licenciés d'escrimeurs antillais, et on a 30% de l'équipe de France, 50% des médailles depuis 20 ans. Et évidemment, tous les commentateurs s'intéressent à ce phénomène. Hein. Tous les escrimeurs sont sollicités en période de compétition par les journalistes, etc., pour expliquer ce phénomène. Et finalement, personne n'y apporte de réponse valable. Alors évidemment, il y a tous les gens qui cherchent à obtenir des réponses génétiques, biologiques, etc. Mmh. Mais il se trouve que dans ce sport, qui est un sport extrêmement français, on trouve, et qui est descendant du duel d'honneur, on trouve des réponses historiques qui sont particulièrement intéressantes en faisant un lien entre l'histoire du sport, l'histoire de ce sport en particulier, et l'histoire de l'esclavage, qui interdisait aux esclaves de porter les armes. Or, c'est pas parce que ça leur était interdit qu'ils n'ont pas passé des siècles à
se battre,
entraîner leurs conditions physiques dans une révolte qui évidemment était souhaitée par tous. Et on fait l'hypothèse dans ce documentaire qu'il existe un lien entre ces différents éléments.
Voilà, et donc on écoute un extrait de ce documentaire avec Jacques Castanet, Louis-Georges Thin, Harry Méfon et Laura Flessel.
Regardez ce tableau-là. 1585. Deux nobles se battent en duel. Et chacun vient accompagné de ses deux copains. Les copains se disent, c'était les fameux mignons d'Henri III, et si on se battait nous aussi? Et ils se battent à 6. Il y a eu un rescapé sur les 6. Le duel a toujours été interdit en France, mais il n'a concerné jusqu'à la Révolution que les nobles, qui avaient le droit seul d'avoir une arme au côté.
Il y a en effet sous tout l'Ancien Régime des décrets et des ordonnances qui régulièrement essaient de mettre fin au duel. Aux Antilles, ça ne se passe pas de la même façon, en partie à cause de la distance, en partie aussi parce que c'est un peu le règne de l'anarchie. Et par ailleurs, comme je l'ai dit, l'esclavage, ce n'est pas une question de commerce, c'est une question de guerre. Et donc, dans un état de guerre, il y a des armes. Et donc, c'est très difficile d'empêcher les gens de se battre. La colonisation, c'est le combat permanent.
Et la suppression des privilèges a permis à une autre frange de la population, pour la première fois de leur existence, de se battre en duel, donc d'apprendre l'escrime.
En 1843, pour préparer le transfert, la libération des esclaves, le pouvoir central donne aux mulâtres des droits civiques un peu plus importants. Et là, on voit que presque toutes les sphères sociales s'emparent du duel, toujours dans un esprit de défi, mais surtout de reconnaissance.
Je connais mon histoire, je connais l'histoire de mes ancêtres. En l'occurrence, on m'a donné la chance de créer une autre histoire. Et je façonne mon histoire en connaissant l'histoire de mes ancêtres, mais je n'ai pas de boulet au pied. J'ai choisi une discipline qui m'a permis de grandir, de me grandir, de connaître des joies internationales. On connaît notre histoire, mais on est aussi maître de notre futur. Et c'est ça qui est important.
Voilà, nous pourrons donc expérimenter cette relation que les Antilles ont aujourd'hui, en tous les cas, avec la question de l'escrime, avec vous, donc Franck Thoraval, et avec Anne Fleury dans le documentaire que vous nous proposez demain. Et nous continuerons mercredi avec une émission consacrée au football. Nous sommes à la veille, ou presque, du début de l'Euro de football avec Victor Massé-Lépiné. Et jeudi, nous traiterons de la question des athlètes de l'Est pendant la guerre froide, sujet que connaît bien par ailleurs Anaïs Quin, et nous serons cette fois-ci avec Séverine Liattard. Rappelons qu'en première partie de cette émission, nous avons traité avec Jean-Claude Schmitt du livre qu'il vient faire paraître aux éditions Gallimard, Les rythmes du Moyen-Âge. En deuxième partie, Milon de Crotone de Jean-Manuel Robineau ou l'invention du sport aux presses universitaires de France. Et puis, rappelons également à nos auditeurs qui seraient abonnés ou pas au magazine L'Histoire que, vous publiez un article, justement, Jean-Manuel Robineau, dans le dernier numéro de L'Histoire qui a pour sujet Guillaume le Conquérant dans la collection L'Atelier des chercheurs. Vous publiez un article sur la naissance de l'athlète dans ce dernier numéro de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Bona Bolivier et Aurélie Marcet. Anthony Thomasson était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter Fabrique FC.